Bonjour, ici François Nardou de Montcuq, depuis les studios du Boulevard. Je reprends aujourd'hui la série d'émissions intitulée Un brin d'histoire et consacrée à, disons, l'histoire, la mythologie et tous les faits anciens concernant le vieux Quercy. Alors, le sujet d'aujourd'hui m'a été inspiré par un phénomène, une petite aventure qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. En vallée de Séoun, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, et j'ai donc décidé de parler du serpent et de ses dérivés, de ses figures voisines, similaires, connexes, dans l'imaginaire, pour ne pas dire la mythologie, des Carcinoles, c'est-à-dire des Quercinois, la mythologie du vieux Quercy, le pays des Carci. Alors les serpents ont une particularité, c'est de muer, de changer de peau au mois de juin. Quand il fait un temps chaud et humide, leurs milieux naturels sont particulièrement favorables en Quercy, surtout dans le Quercy blanc, le pays de Montcuq, car ils affectionnent beaucoup les lieux chauds et humides, les fonds de vallée, mais également l'écorce chaude et sec. Alors les fonds de vallée, les vallées elles-mêmes seraient plutôt le milieu naturel d'une sorte de couleuvre que l'on appelle la couleuvre de Montpellier, qui est venimeuse, mais dont les crocs portant les glandes à venin sont disposés au fond de la bouche, si on peut dire, ce qui fait que la morsure est rarement dangereuse. Alors que, inversement, l'écorce chaud et sec serait plutôt le milieu de la vipère, elle, beaucoup plus dangereuse. Et je me souviens d'une petite aventure qui m'est arrivée il y a plusieurs années de cela. C'était en juin 1977, par temps chaud et humide. Je remontais le camí de la Combe de Rubelette, le chemin de la Combe de Rubelette, au bord duquel se trouve la Foun de la Bella, le bassin de captation de la source de la Bella. Et il y avait à ma gauche un grand pré, il y est toujours, qui était en foin. Et le foin était en épi très dense. Le chemin était dégagé, je remontais, j'allais cueillir des plantes médicinales, et je vois tout d'un coup une couleuvre qui venait vers moi, en ondulant à la surface de la nappe des épis de foin agitée par le vent. Elle était supportée par les épis de foin. Cette couleuvre a monté dans un arbre en ondulant, en convolvulant. Elle s'est branchée, elle s'est juchée sur une branche parallèle qui dominait le chemin, gueule penchée vers le bas, prête à me tomber dans le cou si j'étais passé dessous. Bon, j'ai pris un autre chemin, elle avait disparu, et la même aventure m'a été confirmée comme étant arrivée à différents habitants du Quercy blanc, le Quercy albenc, agressés par des couleuvres de Montpellier, ou même des vipères, ondulant à la surface, soit d'épis de blé, soit d'épis de foin. Alors ce mouvement ondulant des serpents est caractéristique, il est à l'origine probablement même du nom qui leur est donné dans différentes langues indo-européennes. Je pense à l'anglais snake, à l'allemand schnacken, qui aurait la même racine que l'allemand schnell, rapide. Donc au fond, le serpent, ce serait celui qui progresserait en ondulant rapidement. Et cette forme, cette figure, ce motif apparaît dans l'imaginaire des habitants de l'Europe ancienne, sous forme de graphismes élémentaires qui sont connus dès l'époque du Paléolithique final, parmi les gravures et peintures des grottes ornées. Vous savez que c'est l'objet de recherche en ce moment et de classement du reste, qui remonte au moins à André Leroy-Gourhan et à ses fameuses recherches des années 70-80, dont il est fait écho dans son dictionnaire de la préhistoire, mais il y a eu d'autres préhistoriens depuis qui se sont penchés sur les productions, on appelle ça des artefacts, du paléolithique et du mésolithique, mais surtout du paléolithique. Et on s'est aperçu que nos ancêtres ou prédécesseurs de Lascaux et de Pechmerle, donc vers 20 000 avant notre ère, depuis 35 000 avant notre ère, apparition de l'Homo sapiens dans nos régions, jusqu'au néolithique, à la révolution néolithique, qui voit le climat de l'Europe se réchauffer considérablement et l'Europe passer à un régime non plus de chasse, pêche-cueillette comme au paléolithique, mais à un régime de production agroalimentaire. Alors on s'est aperçu que dans ces grottes ornées figuraient des signes, des glyphes, très élémentaires, parmi lesquels le point, le cercle, la croix et le trait. mais également des séries de points, des séries de traits ou des séries de croix. Et ces séries de traits allaient toujours par des nombres très particuliers. Dans certains cas, je pense à la fameuse Vénus de l'Ocelle, qui représente une déesse mère aux formes très généreuses, tenant une défense de sanglier dans sa main droite. Cette défense de sanglier a la forme d'un croissant de lune et elle est striée de 13 traits parallèles verticaux, que l'on a assimilé à des lunaisons, à la figuration, au calcul de lunaisons. Et parmi ces détails élémentaires figure le trait horizontal, qui pourrait être la forme primitive inspirée à nos ancêtres par la vision d'un serpent. Or, le serpent est un animal qui ondule. Et en Quercyblanc, nous sommes bien placés pour en parler, car nous avons, parmi les trésors laissés par nos ancêtres médiévaux, dans l'architecture religieuse du Quercyblanc, la fameuse église dont j'ai souvent parlé, de Saint-Aignan de Rouzette. Alors, le château de Rouzette, je prononce le T de la fin, apparaît dans la documentation dès le XIe siècle. Bon, on a des citations au XIIe, XIIIe et jusqu'au XVe siècle, notamment au XVe. Alors, ce château de Rouzette se trouve en vallée de Séoune. Il domine la vallée de la Séoune, en pays de Montcuq, à l'ouest-nord-ouest de Montcuq. Il se trouve à mi-chemin entre en amont Belmontet à Naval Moulin-Bessou. Il est à droite de la route qui va de Belmontet à Moulin-Bessou. Et en dessous du château se trouve à mi-versant, ce qui permet, recherche d'un historien médiéviste britannique, de situer la construction de cette église vers le Xe-XIe siècle. Donc se trouve à mi-versant une église paroissiale, romane, très simple, d'aspect extérieur on croirait une grange, mais dont le cœur est marqué par des sculptures extrêmement riches de sens et fort intéressantes. Sculptures qui ornent, si on peut employer le mot orner, car elles sont pleines de sens, elles signifient. Elles ornent donc les colonnes et les chapiteaux engagés des angles. Alors ces colonnes et ces chapiteaux ne portent rien, ils ne sont là que pour enseigner. La voûte repose sur des contreforts extérieurs. Alors Saint-Aignan est ouvert à la visite toute la journée. Le gardien des clés, que je connais bien, a obtenu que cette église soit tout le temps ouverte au public. Alors parmi les multiples signes gravés à l'extérieur et à l'intérieur dans la pierre ou dans le bois de cette église figure donc un chapiteau à gauche quand on entre dans le chœur, et ce chapiteau est marqué par la figure du serpent. Serpent lové en forme de crosse, si on peut. Ça a fait croire à certains que c'était une crosse d'évêque, pas du tout. Et serpent ondulant, et qui va piquer une masse ronde, une masse sphérique, un globe, qui émerge à la surface de la pierre. Et en dessous se trouve un visage d'homme. On a là les deux figures initiales du serpent, le serpent lové, c'est-à-dire l'énergie latente. Pensez à, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais Brahma ou Shiva en seigneur du sommeil, et le serpent ondulant. Alors cette figure du serpent lové et du serpent ondulant, l'énergie latente, l'énergie en action, marque donc ce site de Saint-Aignan de Rouzette, en vallée de Séoune, avec plein de significations connexes, évidemment. Et nous avons d'autres particularités qui caractérisent la culture du Quercy, outre ce phénomène. C'est, par exemple, l'église romane de Rouillac, église paroissiale, les fresques du XIIe siècle. C'est les fresques du panneau occidental dans le chœur, fresques qui sont invisibles des fidèles. C'est pareil pour les sculptures de Saint-Aignan de Rouzette, elles ne sont pas visibles des fidèles, du moins celles dont je viens de vous parler. À Rouillac, donc, sur l'arc triomphal, le panneau regardant vers l'est, et qui n'est visible que du prêtre célébrant dans le chœur, ce panneau figure la scène du péché originel. Alors, il faut le lire à l'envers, parce qu'en fait, le paradis terrestre, le jardin d'Éden, le Gan Éden de la Bible, et comme le dit le texte de la Genèse, c'est un jardin planté par Dieu à l'Orient, en Éden. Alors, Éden, c'est la steppe. L'Orient, c'est Kadim, c'est les origines. Donc Dieu, aux origines, a planté un jardin dans la steppe, à l'Orient. Donc, si vous voulez, là, nous le voyons à l'ouest. Donc, tout doit être lu en miroir, en inversé. Et nous avons, sur cette scène, Adam, couleur ocre, pourpre à l'origine, Ève, couleur pourpre, entre eux, l'arbre de la tentation, qui est un figuier, autour duquel convolvule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens inverse de la course du soleil dans le ciel, convolvule le serpent qui revient vers les origines et qui monte vers le sommet du figuier et qui tend sa gueule ouverte vers Ève. Ève qui passe de sa main droite le fruit d'or de la tentation à Adam qui le reçoit de ses mains et le fruit d'or est inclus dans une espèce de losange horizontal. Alors ce qu'il y a de très curieux, c'est que Ève est appelée Ada Eva, si Adam est cité sous son nom habituel. La couleur dominante, c'est le pourpre, l'or et le blanc. Le figuier est pourpre, comme le serpent, comme Ève, comme Adam. Le fruit de la tentation est en or, c'est une figue. Et le serpent convolvule. En fait, c'est une évocation d'un passage bien connu de la Bible qui dit que Dieu, aux origines, avait créé le serpent pourvu de pattes, comme un lézard. Et suite à son rôle dans la chute, dans le péché originel, Dieu a puni le serpent en le privant de pattes. Or, ce qui est intéressant, c'est que ce serpent couleur pourpre de Rouillac, si ce n'est qu'il est dépourvu de pattes, il reproduit la vision que l'on a des lézards verts ocellés des costes de Rouillac. Or, je me souviens d'une petite aventure, là aussi, très amusante, dans les années 70. Le lieu dit Cournou, d'où on voit l'église de Rouillac, appartenait à une famille qu'il avait achetée venant du nord de la France. Et un jour, la dame de maison arrive tout affolée dans la boutique de mes parents, nous étions à table. Monsieur Nardou, mon père était pompier bénévole volontaire, et il était de toutes les corvées. Monsieur Nardou, venez vite, nous avons un monstre dans la cuisine. Mon Dieu, dit mon père, quel est ce monstre? Il monte chez la famille en question, et le monstre en question était un lézard vert, qui ouvrait la gueule quand on essayait de s'approcher. D'un coup de balai, mon père a chassé le lézard vert, mais le serpent de Rouillac n'est pas autre chose que la reproduction du lézard vert des Corses du Quercy. Alors, est-ce qu'il y a eu un transfert visuel et psychologique de la part de ces gens-là qui voyaient l'église de leur fenêtre, qui avaient dû voir les fresques de Rouillac? C'est pas impossible. En tout cas, le serpent à Rouillac, c'est un lézard vert, mais de couleur pourpre et sans les pattes, qui est assimilé au serpent de la tentation. Alors, pour les Quercinois anciens, le serpent de la tentation, c'est pas n'importe quel animal, voyez-vous, c'est le lézard vert sans pattes. Il me ferait penser à la couleuvre de Montpellier dont je vous parlais tout à l'heure. Couleuvre de Montpellier qui est fréquente, par exemple, dans mon jardin du versant sud de mon cul. Elles ne sont jamais agressives, sauf la grande période d'agressivité des couleuvres de Montpellier, c'est le mois de juin, au moment des pariades. À ce moment-là, les nœuds de serpent, qui sont des accouplements, peuvent se révéler dangereux si on y tombe dessus tout à fait par hasard. Et même hors les pariades, la couleuvre de Montpellier en juin est agressive. Alors, on a donc, si vous voulez, dans l'imaginaire des Quercinois, la présence du serpent, qui est assez prégnante, au point que, et c'est autre petit détail que j'oublie de raconter, nous avions à Montcuq autrefois, parmi les religieuses du couvent de la Miséricorde, une religieuse très connue à Montcuq, qui elle était très populaire, la Sœur Marie du Christ, qui était originaire de la région. Et cette religieuse avait, c'est une tradition qu'il faudrait étudier et qu'il faudrait en reconstituer l'origine, cette religieuse tuait les serpents et les cuisinait comme des anguilles. Alors elle enlevait les parties venimeuses, les glandes venimeuses, et elle cuisinait les couleuvres, les vipères comme des anguilles. Alors il faudrait savoir quelle était l'origine de cette pratique culinaire. Est-ce que c'était une tradition dans sa famille, dans son village d'origine? Je n'en sais rien, mais autre chose qui est plus intéressante, c'est le fameux usage que j'ai appris de la part de notre fameuse plus que guérisseuse de Montcuq, qu'il n'est plus nécessaire de la nommer. J'en ai parlé à propos de Saint-Jean-le-Froid et du Touron. Cette personne me disait, elle m'avait appris une chose qui m'a été confirmée par des médecins, infirmiers, infirmières voyageant beaucoup en Afrique. Cette personne conseillait à sa pratique, à ses clients, si on peut dire, contre toutes les douleurs, quelles qu'elles soient, de recueillir au mois de juin, et c'est toujours dans des lieux chauds et humides que ça se passe, des mûres de serpent, les faire sécher et les utiliser en usage externe ou en usage interne contre toutes les douleurs. Alors, cette dame disait, elle me l'avait dit elle-même, plus le serpent est venimeux, plus la mue de serpent est efficace. Elle conseillait d'en faire tremper un petit morceau toute une nuit dans un verre d'eau, le lendemain de boire l'eau et d'appliquer la peau de serpent à l'endroit qui faisait mal. Et la douleur était censée devoir disparaître rapidement. Alors cet usage est connu en Afrique, il est très fréquemment cité par les gens qui ont voyagé en Afrique. Tous les guérisseurs africains le connaissent, on le connaît aussi en Amérique du Sud. Ça montre l'antiquité probablement de l'usage remontant au moins jusqu'au paléolithique final, parce que bon, le paléolithique étant caractérisé par un climat froid et sec, n'était pas très propice aux serpents, si ce n'est qu'il faut savoir qu'il y a eu des interstades interglaciaires qui ont pu durer jusqu'à 3000 ans, c'est quand même le temps qui nous sépare des origines même des Celtes en Europe danubienne, Et pendant ces 3000 ans-là, le climat s'était considérablement réchauffé jusqu'à être un climat semblable au nôtre, ce qui fait que le serpent pouvait proliférer. Le serpent est quand même un animal des climats chauds et humides, ou des climats chauds et secs. Alors, ce que je vous racontais tout à l'heure à propos de l'usage des serpents cuisinés par la sœur Marie du Christ me fait penser à quelque chose que l'on connaît bien. C'est la tradition qui veut que les cerfs, qui renouvellent leur bois au printemps, acquièrent une immortelle jeunesse en mangeant des serpents, ou du moins en mangeant les mues de serpents. J'en suis venu à me demander, est-ce que dans le pays d'origine de la sœur Marie du Christ, on n'avait pas conservé ou formulé, conçu la tradition qui aurait voulu que, c'est ce que me rappelait donc notre fameuse plus que guérisseuse de Montcuq, la mue de serpent remplaçait le serpent et que consommer d'une façon ou d'une autre, utiliser des mues de serpent, était capter les valeurs, les vertus de régénérescence, de régénération, de jeunesse éternelle, dont le serpent est le vecteur, le porteur, le possesseur, et qui expliquerait pourquoi dans la tradition médiévale, on pensait, on croyait que les cerfs renouvelaient leur bois, acquéraient une jeunesse immortelle, une jeunesse éternelle, en mangeant des serpents, qu'ils faisaient sortir de leur trou, en insufflant dans le trou l'haleine chaude du cerf, le serpent était attiré, il sortait, à ce moment-là le cerf le mangeait, et ça lui permettait de se régénérer. Donc le serpent, animal caractérisé par son ondulation, par ses vertus de régénérescence et de régénération, serait un animal particulièrement prégnant dans l'imaginaire des Kersinois. Il faut maintenant voir, après un petit intermède musical, qu'est-ce que signifie cette progression, cette évolution, ces lignes, ces formes, et qu'est-ce qu'il en est resté dans notre culture européenne moderne.
Le corbeau et la mouette sont des oiseaux de belle allure, et moi, le serpent, je rampe entre les pierres. Mes yeux ne peuvent suivre leur vol superbe. Le regard au ras du sol, je devine la joie de l'envol. Et je rêve d'elle, mais je reste à grouiller sur la terre. Et le sang des guerres rejaillit sur moi. Sur moi, le serpent rejette le mal et la misère. Mais si le corbeau et la mouette ont des ailes d'envergure, j'ai en moi l'éveil de la femme et je plonge en elle. Et la gloire infinie du mal, les oiseaux ne peuvent pas ramper. Un vertige en vaut bien un autre, celui des grains de terre qui s'écartent vaut bien le vertige du ciel. Et lorsque je rampe, je m'émerveille tout autant qu'un oiseau qui s'élève. Mais les pierres que la populace me jette me sont mortelles.
Alors donc, le serpent, figure, motif, forme, signe, se caractérise par le fait qu'il reproduit une spirale ondulante, qui peut être horizontale ou ascendante. C'est donc une progression, une évolution suivie d'une involution, une évolution ascendante ou linéaire vers un avenir ou au contraire un retour vers les origines. Je vous disais du serpent de Saint-Aignan qu'il évoquait dans la position lovée l'énergie latente et ondulant, il évoque absolument une eau coulant à la surface d'un lit de rocher. C'est tout simplement le signe mu de l'alphabet grec, c'est l'égyptien ma, qui est figuré par deux lignes ondulantes parallèles, horizontales, et qui figure l'eau qui coule, c'est le fleuve, c'est le Nil, c'est l'eau courante, c'est l'eau potable. Vous savez que l'Égypte, sa vallée, le Nil, pour la pensée ancienne, c'est la projection au sol de la voie lactée. Or, il y a une chose qui est très intéressante dans cette vallée de la Séoune, marquée par Saint-Aignan de Rouzé. Alors, la source de la Séoune, c'est à Villesèque, où se trouve un rétable en bois sculpté, avec Saint-Michel vainquant le dragon, le serpent, et dans l'angle droit inférieur du dit rétable figure une vanité au serpent et au miroir, qui est le complément de la Mélusine bifide à deux queues de poisson, qui ne tient que le peigne, dans l'église de Belmonté. Alors cette Mélusine de l'église de Belmonté, qui est une dame des eaux et des pluies, est figurée à droite dans la nef sur un chapiteau, on ne voit que le peigne. Le miroir qu'elle tient de la main droite est en quelque sorte occulté, je dis bien occulté au sens le plus ésotérique possible, par le mur. À Villesèque, on voit le miroir et le serpent. mais on ne voit pas le peigne. Vous êtes là aux sources de la Séoune, qui, à Lasbouygues, passe sous le patronage de Saint-Jacques-le-Bouillant, fête le 25 juillet, avant d'arriver à Toufaille, où elle est sous le patronage de Saint-Christophe, lui aussi fêté de nos jours le 25 juillet. Il faut donc savoir que, en Quercy-Blanc, la Séoune, qui figure l'écoulement du temps, est marquée par deux saints fêtés le même jour, le 25 juillet. C'est comme si le temps ne s'écoulait plus, c'est comme si le temps était figé. Donc c'est un temps immobile, c'est l'éternité. La mer en allait avec le soleil. Le serpent, dans l'imaginaire quercinois, et on le voit figurer déjà dès l'époque celtique sur le fameux chaudron de Gundestorp, avec le dieu Kernunos, le dieu aux cornes de cerf, tenant la roue, qui en fait un aspect de Taranis, le dieu du tonnerre. Il tient d'une main la corne d'abondance, les richesses infinies, et de l'autre main, le serpent à tête de bélier. Or, le serpent à tête de bélier, dans l'imaginaire quercinois ancien, qu'est-ce que c'est ? Ben pour les quercinois anciens, les sources, c'est comme la tête d'un serpent. On s'imaginait que les sources étaient des courants d'eau qui sortaient de terre, comme la tête d'un serpent sortirait de terre. Et pour les quercinois anciens, la source, c'est la tête d'un serpent, c'est la tête d'un courant d'eau. Du reste, la source porte en occitan le nom de Cap d'Aigo, tête d'eau. Porte également le nom de Guel ou Aguel. Or, il faut savoir qu'à Belmontette, avec la Mélusine de Belmontette, le ruisseau de Fondecombe porte le nom de Rio del Aguel, donc le ruisseau de la tête de serpent, si vous voulez, le ruisseau de l'Oculus. L'Oculus, c'est l'œil. Dans les langues sémitiques, les sources, c'est des Ain, c'est des yeux. Alors, on aurait donc là, si vous voulez, dans le Quercy-Blanc ancien, l'idée que les sources sont des émergences de serpents, dont la tête serait la source. Et ce n'est pas sans intérêt quand on sait que dans l'église Saint-Hilaire de Montcuq, figure dans le transept, à l'angle vers le sud-ouest, un chapiteau qui a été sculpté puis abrasé, et qui, à la lumière du mois d'août, laisse réapparaître une sculpture très étonnante. C'est tout simplement le Kernunos gaulois, tenant la corne d'abondance et le serpent à la tête de bélier. Avec donc ses échos à Rouillac, à Saint-Aignan-de-Rouzé. À Cambeirac, sur l'Écosse, au nord de la vallée de la Séoune, sous le rebord extérieur sud du toit du chœur, figure Mélusine, en forme de vouivre. Je vous parlais de Villesèque et de la vanité au miroir et au serpent. À Belmonté, la Mélusine, à Bicaudale, à queue bifide, si vous voulez, au peigne et au miroir occulté. Il y a mieux, à Saint-Donès, dans l'église Saint-Pierre-Aulien, on entre par la porte est actuelle qui, au fond, a été percée dans le mur de l'ancien chœur. Vous entrez par l'ancien chœur. Et a été conservé l'arc triomphal porté par deux colonnes qui ne portent rien, elles sont appuyées contre le mur, mais elles portent surtout des chapiteaux de facture gallo-romaine rustique du 2e et du 3e siècle de notre ère, récupérées lorsqu'on a bâti l'église de Saint-Donès. Elles ont été récupérées sur un bâtiment gallo-romain abandonné, elles ont été réutilisées dans l'église de Saint-Donès. Il devait y en avoir toute une série. Il ne reste plus que deux chapiteaux. Et sur le chapiteau de droite est figuré le fameux Jupiter à l'anguipède, c'est-à-dire Jupiter, le loup gaulois, le Zeus grec, foulant le serpent à tête humaine. Ce serpent ondulant à tête humaine, c'est celui qui retient les eaux de source. Il est l'ancien maître des eaux de source. Il est devenu le démon responsable des sécheresses. Et sa défaite foulée par Jupiter, cavalier, en quelque sorte, fait du Jupiter gaulois, du loup gaulois, le nouveau maître des sources et des pluies fécondantes. Le serpent est donc dans l'imaginaire quercinois, et c'est particulièrement net à Rouillac avec la source de Saint-Julien de Brioude, qui était l'objet de rites et de culte destiné à faire tomber la pluie, le serpent est lié aux sources, aux eaux inférieures sur lesquelles flotte le disque du monde, la terre. Le serpent est donc le maître des eaux fécondantes et le maître des eaux de rivière. C'était l'expérience qui m'était arrivée lorsque j'avais été attaqué par des couleuvres formant un nœud de fécondation en juin 1977 en montant la combe de Roubellet à la hauteur de la source de la Bella, du bassin de captation. On considérait que les nœuds de serpent, qui s'accouplent en juin, donnaient naissance à un œuf, l'œuf du monde, qu'on appelle aussi un œuf de coq, un œuf pondu par un coq, fécondé par un serpent. Évidemment, il y a toute la mythologie, toute la symbolique du coq, qui est une autre figure de l'aigle, du soleil, du ciel. Le coq maîtrisant le serpent, c'est la même chose que l'aigle maîtrisant le serpent de la légende des origines de Mexico, la légende aztèque. Le coq, c'est l'aigle, c'est le ciel solaire, c'est le ciel diurne. D'où le chant du coq qui interrompt la domination du diable pendant la nuit sur le site du pont Valandré. C'est autre chose encore plus important quand on sait que le tout nouvel évêque de Cahors recevait du sire de Montagut, qui le guidait à travers Cahors en tenant le cheval du nouvel évêque par la bride, le sire de Montagut ayant un pied chaussé et l'autre nu, une pécaouchate et l'autre nue, comme au des Montagut, le sire de Montagu devait offrir au nouvel évêque le premier nid de l'aigle. Il y a donc un lien entre l'aigle, le coq et le serpent. Mais à Cahors, c'est encore plus prégnant si on sait que le serpent sous la forme du drac intervient comme le maître du monde chthonien, chthodos en grec, le souterrain, le monde aquatique. Celui des sources en grotte, mais aussi celui des gourgues du bord du Lot. Pensez au drac qui surgit du Lot depuis le moulin de Coati, à Cahors, en face de l'église Saint-Ursice. C'était à côté de la maison de mes ancêtres Birou, à Cahors. Ma mère me racontait que sa grand-mère lui parlait du drac qui sortait du gourgue du moulin de Coati pour emporter les enfants qui étaient passage. Alors ce drac, c'est un cheval-serpent. C'est un peu la même chose qu'à Saint-Aignan-de-Rouzet, l'ancêtre mythique des Taïfales de Toufaille, qui était une dame serpente, ondulante, figurée par une espèce d'emblème de soie pourpre, conféré par Constantin aux Taïfales établis en colonie militaire en vallée de la Séoune à Toufaille, et qui est une espèce de serpente volante, de dragon volant. Alors évidemment, ça évoque toutes les légendes communes dans toute l'ancienne Europe sur les serpents, les dragons, les sauroi, faut-il dire d'après le grec, serpents dominés, maîtrisés, vaincus par des saints protecteurs fondateurs du christianisme, comme Apollon à Delphes. On le retrouve à Tarascon avec la Tarasque, on le retrouve ailleurs. Le serpent est un symbole qui intervient dans les légendes des origines d'Athènes, avec Érechthée, premier roi d'Athènes, qui est un roi serpent. Érechthée, dont le palais sur le rocher de l'Acropole porte le nom de Athana, c'est-à-dire le palais labyrinthe de la double H, d'où le nom d'Athènes et d'Athéna. C'est là le mythe des origines d'Athènes, la petite histoire où on nous dit que des filles d'Érechthée, qui portent des noms très, très curieux, il est question de lumière inquiétante. Aglaé, Glaoua, etc., peu importe. Elles sont chargées de conserver dans une grotte de l'Acropole une corbeille qui leur est interdite d'ouvrir. Mue par la curiosité, elle l'ouvre et elle voit quoi ? Un serpent. Prise de terreur, elle se jette de l'Acropole et se tue en tombant. Donc il y a là, si vous voulez, un lien entre le serpent et le tabou. Quel est ce tabou, cet interdit ? Ben, c'est tout simplement ce qui intervient dans les cultes, les rites, les légendes, les mythes de Dionysos, le Dionysos Bacchos de la Grèce ancienne, c'est qu'au fond, le serpent est la représentation visuelle d'un dieu ityphalique, c'est-à-dire d'un dieu au sexe, au pénis, en érection, le phallus. Il ne faut pas oublier que dans les processions dionysiaques, on exhibait des phallus géants en érection. Au fond, Dionysos, qu'est-ce que c'est ? C'est le serpent, et le serpent, c'est Dionysos. Alors, est-ce que dans le Quercy blanc ancien de mes ancêtres fort catholiques, le serpent aurait eu un rôle de la sorte ? On peut penser à ce récit de l'Exode où les Hébreux, mordus par des serpents au venin mortel pour avoir enfreint un tabou de la loi divine, sont guéris parce que Moïse érige un serpent de bronze sur un bâton en forme de T, la figuration de la croix, et la vision de ce serpent suffit à guérir les Hébreux mordus par des serpents venimeux. Alors, ce n'est pas sans intérêt quand on sait que dans notre belle langue occitane, certaines plantes portent des noms en relation avec le serpent. Alors, l'arôme tacheté s'appelle pan de serp, je prononce comme il faudrait, c'est-à-dire pain de serpent. La brionne dioïque, ragi de serp, raisin de serpent. Il faut savoir que l'arôme tacheté comme la brionne peuvent avoir des usages médicinaux par usage externe, surtout interne pour la brionne dioïque, mais je vous déconseille d'essayer la chose, il faut savoir utiliser. C'est une question de dose, d'excipient, de préparation, c'est assez compliqué. On risque surtout de s'empoisonner mortellement. Mais il semblerait donc, pour nos ancêtres quercinois, qui connaissaient les usages médicinaux dans certaines conditions bien particulières de certaines plantes toxiques, je parle de l'arôme tacheté de la brionne dioïque, pan de serpe et ragi de serpe, il semblerait que pour nos ancêtres carcinols, dans le pays des Carcialbenc, du pays de Quercy-Blanc, les serpents se nourriraient de plantes toxiques, qu'on appelle par ailleurs des herbes del diable, des herbes du diable. Le serpent serait donc le diable. C'est, au fond, qu'est-ce que c'est ce diable ? C'est le vieux dieu, maître de la nature et maître du pays de Quercy-Blanc, qui se manifesterait sous la forme d'un serpent et qui serait le maître de la régénérescence et de la régénération par l'ingestion de plantes autrement toxiques, mais qui, selon certains rites, selon certaines pratiques, selon l'usage de certains ingrédients, à certaines dates de l'année et par certains spécialistes, il ne faut pas l'oublier, je pense aux plus que guérisseurs du vieux Kersiblan, dont notre grande initiatrice de Montcuq m'avait fait rencontrer certains, savaient utiliser ces plantes toxiques dans un but uniquement médicinal. Donc pour nos vieux Kersinois, et je le dis toujours dit, notre plus que guérisseuse de Montcuq, elle était porteuse de toutes les vieilles idées, croyances, qui transcrivaient, qui exprimaient la vision du monde, du Kersi, de la nature, qui était celle des vieux Kersinols, et qui disparaît, mais dont sont encore porteurs nos guérisseurs locaux, du moins ceux qui restent. Alors pour eux, en quelque sorte, le serpent, parce qu'il ingère des toxiques, prend à celle-ci leur vertu médicinale de régénérescence et de régénération de la nature. Ces toxiques que les Kersinois ramassent au printemps sous la forme de jeunes pousses tendres, encore comestibles, qu'ils font passer dans trois eaux bouillantes salées successives et qu'ils mangent comme des asperges. Le serpent serait donc en quelque sorte le vecteur intermédiaire permettant à l'homme de capter sans danger les vertus médicinales de ces toxiques, d'en assimiler les substances thérapeutiques mélésotoxiques. Et leur réputation de ces toxiques comme herbos de serp, herbos del diable, tiendrait à ce que les serpents passeraient pour s'en nourrir, pour les ingérer en cure saisonnière, au mois de juin surtout, et ainsi acquérir des pouvoirs qui sont l'expression, la manifestation des vertus thérapeutiques de ces toxiques, mais qui sont encore plus l'expression des pouvoirs de la nature elle-même. La nature représentée par un vague grand dieu qu'on ne saurait pas définir, mais je pense par exemple à la grotte du diable, l'Espelugo del Diable, et à Cuvignac. Cuvignac, qui par l'étymologie de son nom, est un lieu de Mars Covinos, Mars dans le char de triomphe tiré par des mules noires, Mars qui se manifeste au Touron, pas loin de Covinens, Covinensis, entre lieu de Mars Covinos, et sous la forme d'un cavalier sombre monté sur une mule noire. Et nous sommes là donc aux origines même de la plus ancienne sacralité du vieux Kersi, qui se manifeste, entre autres choses, à Saint-Jean-le-Froid, où la source passe pour être la résurgence d'eau venant du monde inférieur et qui se manifesterait dans la nuit du solstice d'été comme des serpents à tête de bélier surgissant du tréfonds du sol, du nadir du monde, du chtonos, faudrait-il dire d'après le grec, et en quelque sorte émergeant au matin, lorsque le soleil se lève, à la surface des eaux, pour communiquer à celles-ci toutes leurs vertus curatives et régénératrices. Quand le soleil, se levant le matin du solstice d'été, Saint-Jean-Baptiste, pénètre par la porte ouverte de la grotte et va inonder le fond de la grotte, là où jaillit la source. On serait donc là dans un continuum mythique et mystique avec les idées qui veulent que les sources soient aussi des portes d'entrée du monde des morts, donc des lieux oraculaires. Alors, évidemment, tout cela nous pose beaucoup de questions. Les choses en ce domaine sont des plus complexes. On s'aperçoit qu'en mythologie, en histoire des mythes et des religions, comme en histoire tout court et comme en géographie, tout s'enchevêtre et tout est en interconnexion. Il est impossible de trouver une cause qui ne soit pas en même temps une conséquence. C'est comme une pelote de laine, vous ne savez pas trop par quel bout la prendre pour tirer. Vous tirez le fil par un bout, mais tout est à la fois, chaque élément est à la fois cause et conséquence. Et tout est en interconnexion. Alors c'est ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui autour de la figure mythique du serpent. Un truc, quand même, que je voulais vous dire. Si vous avez peur des serpents, vous avez un remède très simple. Semer. Le semis réussit très bien. Je l'ai fait, c'est très bien réussi. Une plante méditerranéenne, à belle floraison jaune dorée, à odeur lourde, qu'on appelle la rue. En latin, ruta graueolens, la rue à odeur lourde. Alors, pour en avoir semé en pot, puis transplanté dans mon jardin, d'où maintenant elle s'essaime facilement, elle s'est naturalisée, il me pousse de la rue un peu partout dans le jardin. La partie supérieure de mon jardin, qui était envahie de serpents au printemps, eh bien maintenant je n'en ai plus. Et ça confirme ce que j'avais lu quelque part, que la rue faisait fuir les serpents. Alors effectivement, la rue, on ne sait pas trop pourquoi, empêche les serpents de fréquenter un jardin. Par contre, la moitié inférieure de mon jardin, où il n'y a pas de rue, alors là, j'ai des couleuvres de Montpellier, les toxiques, tenez-vous bien. Mais j'en ai eu sur un petit mur en brique qui me sépare du jardin de la maison de ma marraine, une belle couleuvre de Montpellier l'été dernier, qui, mon Dieu, je l'ai senti, aurait pu être agressive. Alors qu'elle avait pas loin d'elle, elle avait un pied de rue. Il faisait très chaud, peut-être que la rue n'était plus en activité. Alors là, vous avez donc avec la rue, vous avez eu un remède contre le serpent. Mais je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, ça passe pour un remède souverain contre toutes les douleurs, soit par voie externe, soit par voie interne. Je parle de la mue de serpent, évidemment. N'allez pas manger vif un serpent venimeux. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous voyez que, bon, sur un petit sujet comme celui-là, on peut dire beaucoup de choses. On pourrait en dire encore plus, mais le temps nous est compté. Voilà. Alors, vous savez que le temps est un cycle perpétuel qui se renouvelle sans cesse. C'est l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, tout simplement. Donc, là aussi, c'est toujours pareil. La tête et la queue se rejoignent. On ne sait pas qu'est-ce que c'est qui est cause, qu'est-ce que c'est qui est conséquence. Conception cyclique du temps infini. Alors que notre temps chrétien est un temps linéaire, ascensionnel, qui a une origine et qui aura une fin. La vision païenne, pagane, paysanne du temps est un temps cyclique. Et n'oubliez pas que dans Rouillac, où le serpent est peint dans le cœur, le nom même de Rouillac vient du latin rullus, rulliacum, qui équivaut exactement au gaulois gurdus, gurdu, d'où le nom d'une vieille famille noble de Montcuq, les Gourdous de Montcuq, et Gourde veut dire le paysan païen, qui oppose donc Rouillac à Montcuq. Rouillac, c'est le pays des païens, Montcuq, c'est le pays des gens christianisés, donc civilisés. Vous voyez, on pourrait déborder sur beaucoup d'autres choses. Alors je vous laisse, la prochaine fois, nous parlerons, paraît-il, c'est entendu entre nous, ici aux Alimons, et je prononce l'est de la fin d'Alimons. Nous parlerons des mythes, des rites, des pratiques, des traditions de l'équinoxe d'automne. Alors là aussi c'est pareil, je vous assure, il y a de quoi dire. Beaucoup plus que tout ce qu'on peut imaginer. Alors donc préparez-vous aux Michelados et aux mythes de l'équinoxe d'automne. Il ne faut pas oublier que les conventionnels ont fixé à l'équinoxe d'automne le début de la nouvelle ère et du temps républicain. Ce qu'avait prophétisé Nostradamus dans un de ses quatrains, de ses centuries. Voilà, je vous laisse, alors donc à la prochaine fois, d'ici là, essayez de vous protéger contre les ardeurs du soleil et contre ce que l'Égypte ancienne avait imaginé à propos du mythe d'un soleil déclinant à l'automne, piqué par le venin d'un serpent façonné par Isis. Isis, la grande magicienne et maîtresse du cobra, Al-Kubrat, la grande, c'est le serpent venimeux. Voilà, donc à la prochaine fois. Merci bien et portez-vous bien. Allez, au revoir.
Entrée en transe, près de l'arbre de la connaissance, je ne la connaissais ni d'Adam, ni d'Ève. Depuis je porte le chapeau, un cortège de péchés capitaux, moi qui suis doux comme l'agneau, c'est bête. Un pauvre petit animal, un anneau de lune banale, ignorant tout du bien et du mal, je le jure. Un serpent sans importance, à l'héros un poil compulsif, pas de raison pour être agressif, tout de même. Je cherche mâle ou femelle, et dehors les chameaux, et dehors les brêles, qui en croquent pour ma pomme. Je hais votre peine, je voudrais qu'on m'aime. Possiblement paresseux, envieux, luxurieux, gourmand et orgueilleux, probable. Avare et coléreux, Altebosorn est imbécile, vous m'avez jugé peut-être un peu vite. Faites donc abstraction de ma mauvaise réputation et de mes exigences primitives. Je cherche mâle ou femelle. Dehors les brêles qui en croquent pour ma pomme. Je vis l'enfer d'être en demande et j'ai tant de choses à offrir. Je veux qu'on m'aime.